Cassis FM.
Bonjour Gilles Platret.
Bonjour.
Comment se passe cette campagne électorale pour vous? Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir annoncé votre ralliement avec le parti Debout la France, puisque vous avez perdu un certain nombre de soutiens depuis quand même?
Je pense que j'ai gagné beaucoup plus de soutien, je n'en ai perdu. Quand on va sur le terrain et qu'on mesure les enjeux qui sont ceux de nos habitants, parce que c'est ça qui compte, hein, c'est pas les querelles d'état-major, c'est ce que les gens vivent au quotidien, eh bien on mesure à quel point le rassemblement qu'on a créé, qui est sans doute le rassemblement le plus large qu'un candidat de la droite républicaine ait pu faire en France, a du sens. C'est à la fois un rassemblement pour défendre des thématiques de sécurité, parce que aujourd'hui l'insécurité monte dans la région et on a besoin d'y apporter une réponse régionale, pour défendre aussi des thématiques environnementales. Je vous rappelle, vous le savez, que dans ce rassemblement, on trouve évidemment Debout la France, mais on trouve aussi le mouvement écologiste indépendant d'Antoine Wächter, qui est notamment un mouvement, j'étais encore il y a quelques jours en Haute-Saône avec lui pour dire notre hostilité aux éoliennes qui fleurissent et détruisent notre paysage. Donc on a un vrai rassemblement qui a du sens avec des gens de conviction. Le centre est avec nous également pour un projet de décentralisation.
Le centre, mais François Sauvadet, qui au début vous soutenait, ne vous soutient plus. Et pourtant, Sauvadet, c'est un poids lourd du centre en Bourgogne-Franche-Comté.
Mais en tout cas, moi, même en Côte d'Or, le centre continue de nous soutenir avec les centristes d'Hervé Morin. Et surtout, dans les autres départements, vous trouvez des candidats de l'UDI. Vous savez, quand vous faites bouger les lignes, c'est ce que j'ai fait, quand vous avez un petit peu d'audace en politique pour pas rester uniquement dans le couloir dans lequel on voudrait vous assigner, et ben forcément vous créez un petit peu de perturbation. Je l'assume complètement, mais je ne suis pas homme à rester dans la case où on voudrait me contenir. Donc je sors des lignes, je fais bouger les lignes, et ce qui m'intéresse, c'est pas le jugement de tel ou tel chef, parce que je l'entends et croyez bien que j'ai du respect pour tout le monde. C'est ce que les électeurs vont en penser. Le résultat, on commencera de l'avoir le soir du 20 juin.
Ouais, on va reparler de votre programme dans un instant, mais justement, vous parliez des électeurs il y a un instant, avec toutes ces manœuvres politiques, le ralliement avec Debout la France, avec les écologistes, etc. Est-ce que, au final, vous pensez que les électeurs vont n'y plus rien comprendre dans une situation où on annonce déjà une abstention record pour ces élections?
Mais c'est tout l'inverse, parce que...
Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez pouvoir rassembler, mobiliser les citoyens? On annonce une abstention record pour ces élections. Plus de la moitié des gens, 60-70% des gens n'iront peut-être pas voter le 20 juin.
Le rassemblement qu'on a créé, c'est précisément pour éviter les manœuvres politiques. Comprenez-moi bien, il va y avoir deux catégories de listes dans cette élection. La première, c'est la nôtre, qui aura conclu des alliances ouvertement devant tout le monde. Et je ne crois pas une seule seconde que les électeurs ne comprendraient pas. Ça, c'est vraiment les maltraiter que de considérer ça. Nous avons agi depuis des mois et des mois dans une stratégie de rassemblement au grand jour. Et la deuxième catégorie de liste, c'est celle qui, au soir du premier tour, va subitement trouver des vertus à des listes qu'elle a combattues pour essayer de fusionner des listes et de présenter sur le dos des électeurs, deux jours plus tard, une nouvelle liste que personne n'aura vu sortir avant. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux être franco vis-à-vis de tout le monde, de dire « voilà quel est mon rassemblement, c'est ma liste du premier tour, et ça sera ma liste du deuxième tour, il n'y aura pas de tripatouillage » ou bien est-ce qu'il faut attendre, voir un petit peu quel est l'ordre d'arrivée au soir du premier tour, pour faire des tripatouillages et dans la nuit faire des listes d'union? Mais moi, c'est pas mon affaire. Nous, on a été franco dès le départ. Et je pense qu'au contraire, la clarté, elle est de notre côté. Parce que les électeurs savent, et après, ils en pensent qu'ils en veulent, bien évidemment. Mais les électeurs savent, dès le départ, avec qui nous voulons travailler, sur quel projet et avec quelles convictions.
Et vous ne voulez pas travailler avec le Rassemblement National, je suppose?
Mais je crois que j'ai déjà répondu au moins 40 fois à cette question.
Parce qu'on l'annonce en tête pour ces élections en Bourgogne-Franche-Comté, malheureusement.
Quand on a à sa tête un individu qui est capable rire sur le suicide des agriculteurs, mais quel crédit peut-on avoir? Moi, je voudrais juste quand même qu'on se pose une question. Il y a l'étiquette, entendue. Elle peut servir d'expression de ras-le-bol. Je l'entends parfaitement. Mais il y a aussi la personnalité. Nous allons élire le président de la région. Moi, je n'ai pas envie que la Bourgogne et la Franche-Comté et tous ses habitants soient représentés par un individu qui est capable de venir devant les agriculteurs, la main sur le cœur, pour leur dire qu'ils pensent bien à eux dans leur détresse et que dès qu'il a le dos tourné, fait une blague odieuse sur le suicide des agriculteurs.
Ouais, vous pensez
cet individu-là est infréquentable. Ça fait des mois et des mois que je le dis. On commence enfin à en prendre conscience. Donc évidemment, mais il n'y aura aucune alliance et il n'y a même jamais eu aucun projet d'alliance avec cet individu.
Oui, vous parliez évidemment de la polémique qui a été révélée par le journal Libération en fin de semaine avec cette blague qui aurait été prononcée dans une réunion interne entre Julien Houdou et
non, mais c'est pas qu'il y aurait. On peut enlever.
Ouais, ouais. Alors il a démenti depuis. Il aurait dit qu'apparemment il ne parlait pas des agriculteurs. Il parlait du loup. Bon, bref, on va pas s'étendre sur le sujet.
Ouais. Le mot de loup n'apparaît pas du tout dans cet enregistrement. C'est une erreur de transcription qui depuis a été corrigée, y compris d'ailleurs par vos confrères de France 3. Qui avaient sur la foi d'un mauvais enregistrement cru entendre ce mot, mais qui ont retiré ce mot de leur transcription. Donc c'est un gros mensonge, monsieur. Et moi je vois d'ailleurs, voyez-vous, dans le département de Saône-et-Loire aujourd'hui, vous avez des candidats au départemental qui démissionnent en disant « nous arrêtons notre campagne », des candidats du Rassemblement National, « nous arrêtons notre campagne parce que nous ne pouvons pas cautionner que le leader régional » se tiennent des propos pareils. Et vous avez un élu, le seul maire d'ailleurs du Rassemblement National dans cette région, qui est en Côte d'Or, qui vient d'annoncer ce matin qu'il démissionnait du Rassemblement National pour les mêmes raisons. Oui. Donc on voit bien que heureusement il y a des consciences dans cette famille politique, qui n'est évidemment pas la mienne, mais des consciences qui condamnent cet individu. Donc comment voulez-vous penser, imaginer, jamais travailler, ne serait-ce que de loin, avec cet individu? C'est juste impossible.
Et ce qui arrive justement au Rassemblement National en Bourgogne-Franche-Comté ces derniers jours, ça peut être bénéfique pour votre liste parce qu'on beaucoup de vos adversaires vous annoncent très à droite justement. Donc vous pourriez faire partie des bénéficiaires de cette situation de crise au Rassemblement National finalement.
Moi je ne sais pas ce que ça veut dire être très à droite. Est-ce que traiter les problèmes d'insécurité, est-ce que traiter et s'attaquer au communautarisme islamiste, c'est forcément d'être à droite? Moi, je pense que c'est surtout être républicain. Pas au sens du parti des républicains, mais défenseur de la République, défenseur de la liberté. Moi, j'ai un projet, il est le même. Et vous savez, on peut m'accuser de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quand on se lance en politique, il faut accepter des accusations. Donc, c'est pas un problème pour moi. Mais on peut au moins me reconnaître une cohérence. Depuis que je suis maire, depuis que j'agis et que j'ai le pouvoir d'agir, j'ai toujours défendu mes convictions. Donc, elles plaisent ou elles déplaisent, ça j'allais dire encore une fois, je suis très respectueux de mes adversaires qui me condamnent, mais je note simplement une chose, c'est que dans ma commune, sur les thématiques que je n'ai jamais cachées en matière de sécurité et de lutte contre le communautarisme, j'ai été réélu au premier tour l'année dernière et le Front National s'est ramassé à 3%. Donc, je pense à un moment donné, quand vous répondez aux problèmes des gens, aux problèmes qui se posent dans leur vie quotidienne, eh bien vous gagnez leur confiance. Donc on verra bien si le projet que je porte avec tant d'autres aujourd'hui pour cette élection correspond aux besoins, à l'attente de la population. En tout cas, c'est dans ce sens que nous l'avons conçu et j'attends très sereinement le résultat des urnes.
On va parler très rapidement de votre programme, Gilles Platret. Vous avez commencé à l'évoquer un petit peu concernant l'écologie. Vous affichez, vous aussi, comme le Rassemblement National, mais pas que, votre ferme opposition à l'installation des éoliennes qui font beaucoup, beaucoup de bruit en ce moment, sur toute la France.
Oui. Alors, j'étais effectivement quelques jours avec Antoine Deschter qui nous soutient donc au titre du mouvement écologiste indépendant. Vous savez, le mouvement écologiste indépendant, c'est le mouvement anti-éolien qui est pro-nucléaire parce qu'il considère que c'est une énergie décarbonée dont nous avons besoin et qui de surcroît fait confiance aux écologistes de terrain, que sont en particulier les chasseurs, parce que vous avez des candidats du mouvement écologiste indépendant sur nos listes qui sont chasseurs. Vous avez aussi des chasseurs qui ne sont pas au mouvement écologiste indépendant. Donc en fait, quelle est notre logique en matière d'environnement? C'est tout simplement de dire, arrêtons l'idéologie politique. Nous, ce qu'on veut, c'est une écologie de terrain, une écologie pragmatique. On est conscient qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il faut qu'on accompagne notre adaptation à ce réchauffement climatique. Mais c'est pas l'éolienne qui va nous sauver du réchauffement climatique. L'éolienne, elle détruit le paysage. Vous savez quel est le meilleur ennemi de l'éolienne? C'est l'éolienne elle-même. Parce que plus les gens voient les ravages dans certains paysages des éoliennes, moins ils ont envie d'en voir de nouvelles. Or, aujourd'hui, vous avez des prospections terribles, notamment auprès des maires. On les harcèle pour donner des autorisations d'implantation et souvent, on essaye de les acheter dans des communes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est interdire toute nouvelle implantation d'éoliennes.
Stéphane Bern a dénoncé il y a quelques jours une circulaire qui aurait été lancée par la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, auprès de tous les préfets de France pour leur demander de faire pression pour accélérer l'installation des éoliennes.
Exact. Madame Pompili est l'exemple même de cette écologiste, pas écologique, écologiste doctrinaire qui aujourd'hui cèdent au lobby éolien. Donc nous, on dit stop. Si on est élu, on révise les documents. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a un document qui s'appelle le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires qui a été voté par la majorité de Madame Dufay contre mon avis. Enfin, notre groupe s'y est opposé. C'est moi qui avais porté la parole contre ça à l'époque et qui autorise un déploiement ahurissant du nombre d'éoliennes dans la région. Aujourd'hui, on a des éoliennes, quand vous regardez les paysages, vous trouvez des éoliennes qui sont à 160, 180 mètres de haut. La nouvelle génération, parce qu'on n'a pas assez de vent dans la région, donc ils vont le chercher plus haut, elle est à 240 mètres. Mais vous vous rendez compte, l'impact sur les paysages, enfin, on peut pas...
Ouais, et la pollution des sols également, parce que pour les installer, il faut un gros bloc de béton.
Bien entendu, on est obligé d'enrocher. En plus, avec des masses de béton de plus en plus grandes, puisque les éoliennes sont de plus en plus hautes, ça détruit la faune. On le sait, il y a les chauves-souris, les milans royaux qui sont dans notre région sur des zones de passage de migration sont flingués par ça. Et on veut encore les défendre.
Donc, voilà. Donc vous vous y opposez.
Les gens sont contre de plus en plus.
Vous vous y opposez, on a compris. On va avancer rapidement, Gilles Platret, parce qu'on arrive au terme de cette émission. On a parlé de l'écologie, on va parler maintenant rapidement de l'économie, les questions économiques avec le soutien aux entreprises en Bourgogne-Franche-Comté en cette période toujours de crise sanitaire et économique. Oui. Il y a quelques semaines, la présidente sortante de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guille Dufay, a annoncé un soutien à la fonderie MBF de Saint-Claude dans le Jura. Elle proposait que le conseil régional entre au capital de cette fonderie pour pouvoir éviter une liquidation judiciaire. Vous auriez fait comme elle ?
Je pense qu'il y avait effectivement nécessité d'agir. On a voté à l'unanimité cette proposition. Donc en fait, elle est devenue la proposition de tout le conseil régional. Mais fondamentalement, parce que là, il y avait une urgence, notamment pour maintenir les salaires sur des mois cruciaux. On n'est pas sorti de l'auberge avec cette affaire-là. Pour autant, on la suit très près. Moi, je suis tout à fait disposé à ce que la région joue un rôle important en la matière. Après, il faut voir techniquement comment est-ce qu'on rentre en capital. Ne vaut-il pas mieux créer une société d'économie mixte ? Bon, j'allais dire, ça, c'est des débats d'experts. C'est pas forcément ce qui est fondamental. Par contre, il faut aider. Mais il y a une condition, c'est qu'on ait une véritable politique de développement économique dans la région. Moi, je note juste une chose.
Vous faites beaucoup de déplacements, d'ailleurs. Vous allez voir beaucoup les entreprises aux quatre coins de la région. Je le vois souvent.
Ça m'est nécessaire parce que demain, si on est élu, on va réunir toutes les branches professionnelles pour avoir un avis tout au long du mandat sur la bonne politique à mener. Moi, j'ai besoin de le faire avec les gens de terrain, là aussi, et notamment les chefs d'entreprise. Mais aujourd'hui, on a des régions très actives autour de nous. Le bassin parisien, Auvergne-Rhône-Alpes, la Suisse, et même le Grand Est et l'Allemagne, qui est pas très loin de chez nous. Quand vous êtes à Belfort, vous êtes à deux pas. Eh bien, ce sont des régions hyperactives qui consacrent plus d'argent que nous au développement économique. Nous, on a dit très clairement, si demain on est élu, il nous faudra chaque année, pour à peu près rattraper le retard qu'on a pris par rapport aux régions voisines, 40 millions d'euros de plus dans le développement économique. Pour faire quoi ? Pour attirer des entreprises nouvelles, pour conforter celles qui en ont besoin sur le territoire. Donc oui, on a une vraie ambition économique. On veut être aux côtés des acteurs qui créent de l'emploi. Et dernier point, pour pas être trop long, on a un vrai problème d'orientation professionnelle. Partout où vous allez, vous trouvez des chefs d'entreprise qui veulent embaucher et qui ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée. Et à côté de ça, on a un chômage des jeunes de 20%. Donc demain, la région qui a la compétence d'orientation professionnelle devra travailler beaucoup plus avec les lycées pour que les entreprises puissent rentrer à l'intérieur des établissements à la faveur d'opérations de présentation des filières qui recrutent. Enfin, il y a des gisements d'emploi qui sont inexploités. Donc effectivement, il faut prendre le taureau par les cornes. On a une vraie ambition économique pour l'emploi.
Merci beaucoup, Gilles Platret. Très bonne journée.
Merci. Cassis FM.